RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
C'est aujourd'hui la journée internationale de la biodiversité et si on regarde de plus près l'actualité de ces derniers mois, il y a la COP15 qui s'est tenue à Montréal en décembre dernier. Alors la biodiversité, on le rappelle, c'est l'ensemble du vivant présent sur la Terre, un vivant menacé d'effondrement et l'heure est donc au bilan de cette COP. Le texte adopté lors de cette conférence internationale va-t-il permettre d'empêcher les atteintes aux vivants causées par l'humanité et donc de restaurer ce qui a déjà été gravement endommagé? On en discutait donc en janvier dernier avec Anne Kerléau et je vous propose ce matin de réentendre cette émission et notez que dans la seconde partie, nous verrons comment préserver cette biodiversité au quotidien à travers vos actions et celles d'associations. Ce sera à 10h et comme c'est une rediffusion, merci de ne pas appeler le standard. Bonne écoute! Bonjour Anne Kerléau.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes la rédactrice en chef écologie RCF et ce matin, on fait un petit bilan.
Oui, c'est vers 3h30, heure de Montréal, dans la nuit du 18 au 19 décembre, qu'a été adopté le cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal. Ce texte préparé de longue date a été discuté et amendé pendant 2 semaines lors de la COP15 de la biodiversité, qui s'est tenue à Montréal, sous présidence chinoise en décembre. Après avoir été reporté à 4 reprises en raison du Covid, elle devait initialement se tenir à Kunming en Chine en octobre 2020. Cette COP a réuni les 195 pays qui ont signé la Convention sur la diversité biologique. C'était l'un des 4 grands textes adoptés lors du sommet de la Terre à Rio en 92. Les 2 autres textes, c'était d'une part la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui a généré les COP sur le climat qui sont maintenant bien connues. La dernière, c'était la COP 27 à Glasgow. Et puis la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Alors ce 3e texte, il est sans doute le moins connu des 3, mais il y a aussi des COP sur la désertification dont on parle assez peu, il faut le dire en général dans les médias, alors on essaiera d'y remédier lors de la prochaine. Alors qu'est-ce qui s'est joué à Montréal à cette COP 15 de la biodiversité? Que contient le texte voté en cette nuit du 18 au 19 décembre? Est-ce qu'il va permettre d'enrayer l'effondrement du vivant? Comment va-t-il être mis en œuvre? Ce sont ces questions, Melchior, qu'on va évoquer pendant l'heure à venir.
Et pour en discuter jusqu'à 10h, on a le plaisir d'accueillir deux invités qui ont participé à cette COP 15.
Oui, et d'abord Juliette Landry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Vos recherches portent sur la gouvernance internationale de la biodiversité. Vous êtes titulaire d'un master spécialisé en gestion internationale de l'environnement et d'un autre en ingénierie environnementale. Et donc, vous étiez présente à la COP 15 à Montréal. Et puis, Philippe Grandcola, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écologue, spécialiste de l'évolution des insectes. Vous dirigez l'Institut de systématique évolution biodiversité. C'est un laboratoire de recherche CNRS qui est basé au Muséum d'histoire naturelle. Et vous êtes aussi conseiller scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Vous êtes l'auteur aux éditions CNRS en 2020 du livre Le sourire du pangolin ou comment mesurer la puissance de la biodiversité. Alors je me permets de le recommander une nouvelle fois parce que je trouve que c'est vraiment un ouvrage plein d'infos mais qui est facile à lire. Ce qui n'est pas si fréquent, enfin de plus en plus quand même, mais c'est un vrai travail de vulgarisation et ça se lit presque comme un roman, on va dire. Donc allez lire Le sourire du pangolin. Vous aussi, vous avez participé à la COP 15 de la biodiversité à Montréal, vous y représentiez le CNRS.
Et on entre tout de suite dans le vif du sujet avec nos invités.
Oui, puis on va commencer par du basique parce qu'on parle beaucoup de climat dans cette émission et ailleurs. Melchior, on parle peut-être un peu moins, enfin certainement même, de biodiversité, même si c'est un sujet qui est en train de monter. Alors peut-être que ça vaut le coup de commencer par définir tout simplement, vous l'avez fait un peu en introduction en disant, Melchior, que c'est l'ensemble du vivant, en fait, la biodiversité. Juliette Landry, Philippe Grandcola, est-ce que vous consonnez à cette définition et est-ce que vous pourriez l'étayer, peut-être l'étoffer un petit peu? Qu'est-ce que c'est que la biodiversité, Philippe Grandcola?
Mais effectivement, c'est la diversité du vivant. C'est-à-dire qu'au lieu de se focaliser sur une notion floue comme la nature, dans laquelle on met un petit peu tout pêle-mêle, le sol, la géologie, le climat et le vivant, là, on va se focaliser sur le vivant. Mais au lieu de considérer uniquement tout ce qui est commun à tous les êtres vivants, c'est-à-dire le support de l'hérédité, le fait d'être constitué de cellules, on va en fait regarder ce qui est différent entre les espèces. Et évidemment, dans notre vie quotidienne, dans la société d'une manière générale. En fait, ce sont les différences qui comptent. Évidemment, quand on domestique des espèces animales ou quand on consomme des espèces végétales, en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des différences entre ces espèces. Quand on considère qu'une abeille pollinise une fleur, on considère d'une part des plantes et d'autre part des insectes. Ça, c'est effectivement des différences entre les organismes et c'est ça la diversité du vivant. Alors, c'est un concept qui est apparu dans les années 80 et qui se résume à un mot contracté, la biodiversité, et qui veut trancher justement avec cette manière de voir le vivant sous forme d'organismes modèles uniquement au laboratoire, quelques organismes modèles qui résumeraient en fait ce qui existe sur plusieurs millions d'organismes dans le milieu naturel. Il faut se rappeler que même dans un pays métropolitain comme la France, qui n'est pas très biodivers, on a quand même 40 000 insectes, quelques milliers d'espèces de plantes, quelques centaines d'espèces de vertébrés, donc on est finalement toujours environné par une grande diversité et elle nous avantage ou elle nous désavantage selon la manière dont on la traite. Et en plus, comme vous l'avez dit, la biodiversité, elle a été consacrée au plan juridique par la convention éponyme qui a été donc formulée en 92 au sommet de la Terre à Rio et donc qui a donné suite ensuite aux conférences des parties comme celle qui s'est tenue à Montréal sous présidence chinoise.
Justement, Juliette Landry, à quel moment ce sujet-là de la biodiversité commence à émerger dans les négociations internationales? Quand est-ce que ça devient une préoccupation diplomatique, j'ai envie de dire? C'est vraiment Rio l'acte fondateur?
Non, pas réellement. En fait, on a eu des conventions internationales bien avant la Convention sur la diversité biologique. On va dire qu'avant la Convention sur la diversité biologique, qui est plutôt une approche généraliste sur la biodiversité, on avait des conventions thématiques. Toute une génération de conventions thématiques qui ont commencé à être adoptées dans les années 60-70, je dirais, notamment par exemple la convention sur les espèces migratoires ou encore la convention sur les trafics d'espèces en voie d'extinction. Suite à cela, donc on avait ces conventions thématiques là, et à Rio a été l'acte fondateur pour créer une convention, adopter une convention internationale qui va traiter des enjeux de biodiversité de façon, qui va couvrir tout ce qui a trait à la biodiversité. Donc pas seulement protéger les zones humides, pas seulement réguler le trafic illégal d'espèces en voie d'extinction. Ce sont des conventions, ces conventions thématiques-là qui fonctionnent bien, mais il nous fallait une approche beaucoup plus générale et beaucoup plus englobante. Et c'est ce qu'on a eu avec la convention sur la diversité biologique, qui nous a permis, donc, qui a trois objectifs, la conservation, l'utilisation durable des composants de la diversité biologique, donc des ressources, et le partage et l'accès et le partage des bénéfices issus des ressources génétiques. Donc c'est une convention qui permet à tous les pays de se mettre autour de la table et pas seulement d'avoir une approche plutôt par angle ou par thématique. Depuis ça, effectivement, on a cette convention qui est la convention sur la diversité biologique et qui est quand même la convention principale qui traite ces sujets-là. Et aujourd'hui, on peut dire que depuis 2012, on a aussi une autre approche qui est plutôt basée sur la science. Moi, je tiens à souligner quand même l'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale qui réunit plus de 500 scientifiques, voire plus en fonction des rapports qui sont établis. Et cette plateforme-là a été créée en 2012, donc c'est un peu la continuité aussi de cette approche-là qui permet, donc on passe de la thématique à la généralisation, puis ensuite à la science. Et l'IPBES, c'est un peu le GIEC de la biodiversité. Et il a un rôle prépondérant pour conseiller notamment ce qui a été adopté à Montréal en décembre.
Alors, qui sont les scientifiques de l'IPBES? Parce qu'on a déjà eu, Philippe Grandcola est déjà venu plusieurs fois à cette antenne, donc on a eu l'occasion de découvrir qu'est-ce que c'était qu'un écologue. Mais par exemple, je pense que beaucoup d'auditeurs découvrent ce matin, Juliette Landry, qu'on peut être chercheuse en gouvernance de la biodiversité. D'abord, comment est née une idée pareille dans votre tête? C'est pas quelque chose, on se dit pas petite, j'imagine, je serais chercheuse en gouvernance de la biodiversité. Et puis ce métier-là, il émerge comment en fait?
C'est vrai que pas du tout. De toute façon, quand on est petit, on se doute pas de tout. On n'a pas le panorama de tous les métiers existants, c'est vrai. J'ai aussi une formation en relations internationales de base avant de me spécialiser sur les questions environnementales et notamment de biodiversité. C'est un métier qui est pour moi important pour faire le lien entre ce qui est effectivement établi par la science, par les chercheurs en écologie, en biologie, quand on parle de biodiversité, mais il y a aussi évidemment les climatologues quand on parle de climat ou d'autres sciences, on va dire dures entre guillemets, qui vont nous conseiller, qui vont nous dire bah c'est l'état de la science et c'est l'état des menaces qui pèsent sur notre environnement. Mais après il faut que ça atterrisse et c'est ça qui est intéressant je trouve de quand on travaille sur la gouvernance de la biodiversité ou la gouvernance du climat ou la gouvernance d'autres enjeux qui sont tout aussi importants, c'est de voir comment on va faire en sorte d'écouter la science et de créer cette interface et ensuite de voir comment elle est traduite par des accords ambitieux au niveau international, mais après on peut aussi réfléchir à la gouvernance de la biodiversité au niveau très local, au niveau national. Donc c'est un peu ça, ce métier-là. À l'IDRI, on est beaucoup à travailler là-dessus, pas seulement sur la biodiversité, mais aussi sur le climat, sur l'agriculture, etc.
Alors justement, Philippe Grandcola, puisque Juliette Landry parle de l'IPBES, qui, disait-elle, correspond à peu près au GIEC, même s'il faudrait sans doute introduire des nuances, mais le GIEC pour le climat. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire, en essayant de synthétiser au maximum, c'est un peu mission impossible, mais ce que nous dit l'IPBES aujourd'hui de l'état de la biodiversité, pourquoi est-ce que c'est urgent de s'y intéresser ?
Oui, tout à fait. Alors l'IPBES, en fait, je rappelle simplement, comme le GIEC, il n'y a pas de personne de chercheurs de l'IPBES, ce sont des chercheurs des communautés scientifiques du monde entier qui sont appelés, en tant qu'experts, à participer à des évaluations collectives, ce qu'on appelle des expertises scientifiques collectives, donc qui font la liste de tous les travaux qui ont été publiés, tous les travaux scientifiques eux-mêmes évalués par des pairs, qui sont publiés, qui sont rassemblés par thématique, et puis on prend dedans ce qui est consensuel et avéré, puis on signale les points qui sont moins consensuel ou moins avéré, on les cache pas sous le tapis, mais on montre bien que sur ces points-là, il n'y a pas de certitude. Et donc des exercices de ce type-là, ça prend effectivement beaucoup de temps. En plus, la communauté scientifique est appelée à relire ces évaluations, donc il y a des milliers de relectures qui sont faites, donc vraiment les résultats qui émanent de ces plateformes, que ce soit le GIEC, l'IPBES ou d'autres, qui sont des plateformes d'évaluation scientifique, donc rien à voir effectivement avec des conventions internationales dans lesquelles les États en tant que gouvernement discutent des modalités de gestion. Là, on est vraiment dans l'évaluation scientifique. Et donc, l'IPBES, en 2019, notamment, a eu une réunion à Paris qui était vraiment très importante, puisqu'elle a fait le point sur tout ce qui concernait l'état de la biodiversité. Et à cette occasion, elle a pu montrer qu'on est effectivement dans une crise de la biodiversité, une crise qui est appelée quelquefois la sixième crise d'extinction par référence à des crises qui se sont tenues pendant les temps géologiques il y a des millions d'années. Bon, tout le monde a entendu parler, bien sûr, de la disparition des dinosaures avec la crise Crétacé-Tertiaire. Bon, c'est une situation assez compliquée dans laquelle les dinosaures se portaient pas très bien, mais où la chute d'un astéroïde a mis un coup de grâce à ce groupe d'organismes et à beaucoup d'autres écosystèmes. Mais en fait, ces crises, évidemment, elles n'étaient pas du tout causées par l'homme qui n'existait pas à ce moment-là. Et par contre, la crise actuelle, en fait, elle est entièrement d'origine humaine, exactement comme la crise climatique. Les deux sont liés, d'ailleurs. Et dans cette crise entièrement causée par l'homme aujourd'hui, la problématique, c'est que nous allons 100 à 1000 fois plus vite que les crises des temps géologiques. On est vraiment dans une cinétique qui n'a rien à voir avec les crises des temps géologiques qui sont étendues sur des millions d'années. Là, en quelques décennies, en fait, on a des déclins d'un très grand nombre d'organismes, à savoir, on est sur une extinction d'à peu près 1 million d'espèces d'ici l'horizon 2030, 2050 surtout pour le million d'espèces en voie d'extinction. Et avec ces pertes d'espèces, on a aussi des pertes de ce que l'on appelle des services écosystémiques ou des contributions de la nature. C'est-à-dire que tout ce qu'on considère comme allant de soi, la disponibilité de l'eau, le fait d'avoir des organismes qui sont des antagonistes de ceux qui nous portent tort. Par exemple, si on a un animal réservoir de maladies, il y a d'autres animaux ou d'autres organismes autour qui permettent à ces réservoirs de maladies de ne pas être trop prépondérants. De la même manière, en fait, on dispose de nourriture avec quand même malgré tout des espèces qui sont restées sauvages. Par exemple, quand on pêche, ainsi de suite, toutes ces ressources qu'on considère comme allant de soi, ces ressources n'iront plus de soi si nous perdons ce million d'espèces. Donc l'horizon 2050, c'est très court, c'est très proche, et en plus, c'est un horizon auquel on peut remédier hein, si dès maintenant on prend des mesures. Et l'IBES n'a pas seulement fait le constat d'un déclin assez terrifiant, hein, elle a aussi montré qu'il y avait la nécessité d'un changement transformatif à l'intérieur de nos sociétés, c'est-à-dire simplement arrêter de détruire hein, en perdant des habitants, en polluant, en changeant le climat, en introduisant des espèces ou en prélevant de manière trop importante dans les écosystèmes.
Parce que ça, c'est l'autre point important. C'est-à-dire que, comme pour le climat, en fait, il y a un peu deux choses. Il y a le constat assez alarmiste que vous venez de décrire et le rôle de l'humanité dans cet état de choses.
Oui, tout à fait.
On peut dire que c'est avéré aussi comme pour le climat aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment très important de considérer que le GIEC, enfin l'IPCC en anglais ou l'IPBES sur la biodiversité, sont pas seulement des oiseaux de malheur, hein, si je puis dire, des prophètes de mauvais augure. Ce sont également des plateformes dans lesquelles on présente les solutions possibles pour remédier à ces crises. Très souvent, on a l'impression qu'en fait, on contingente les scientifiques qui ont fait ces analyses hein, à des augures défavorables, et puis après, on appelle les gouvernements pour trouver les solutions. Alors les gouvernements, bien entendu, dans des pays démocratiques, sont appelés à prendre les mesures qui doivent être prises, mais ils doivent le faire en se conseillant auprès de la communauté scientifique, et c'est en théorie ce qui se fait hein, dans la plupart des pays démocratiques, et ces mesures de solutions sont préconisées par l'IPBES. Alors il y a aussi un autre acteur dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, parce que là on a parlé des COP qui dépendent de conventions générales qui sont signées par des gouvernements, donc à la COP 15 on avait des représentants de gouvernement. Il y a des scientifiques comme Juliette ou moi-même qui sommes observateurs, mais les négociateurs, ce sont des représentants de gouvernement, pas forcément scientifiques. L'IPBES, c'est une plateforme d'évaluation scientifique. Puis il y a aussi l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'IUCN, hein, qui était une sorte de grand devancier de toutes ces structures, qui a été formé à un moment où le concept de biodiversité n'était pas encore très clair dans les esprits. On parlait plus de nature. Hein.
On en avait parlé parce qu'ils avaient tenu leur dernier congrès à Marseille, en fait.
Tout à fait. L'IUCN, en fait, il faut le savoir, est à l'origine d'un concept qui a son importance. C'est pour ça que là, je me permets de l'évoquer hein, par rapport à l'IPBES ou par rapport au COP. C'est le concept des solutions fondées sur la nature. Hein, j'engage vos auditeurs à aller consulter le site web de l'IUCN parce qu'il est très bien fait. Il y a plein de choses très lisibles, beaucoup d'explications sur ces solutions qui montrent tout simplement que dans le rapport au vivant, dans le rapport à l'environnement, on peut avoir une vision positive au lieu de voir uniquement le déclin. On peut trouver des manières d'interagir qui sont à bénéfice partagé pour le vivant, la diversité du vivant et pour les humains qui font partie de cette diversité du vivant.
Allez, un peu plus de 9h20 sur RCF ce matin dans Je pense, donc j'agis, nous parlons de la biodiversité. En compagnie ce matin de deux invités, hein, je le rappelle, Philippe Grand-Collat, vous êtes écologue, et Juliette Landry, vous êtes chercheuse à l'IDRI. Je vous lis un message de Jean qui habite à Nevers, il nous a laissé un message tout à l'heure par mail, il nous dit « Comment votre discours peut-il tenir face à une surpopulation latente ?» Philippe Grand-Collat, je vous donne la parole.
Juliette. Oui. Pourra compléter, effectivement, excusez-moi. Oui, en fait, souvent, on a tendance à considérer, finalement, qu'il y a une contrainte de forçage, en quelque sorte, sur le système, c'est la quantité de population humaine. Alors, à mon avis, c'est un faux argument, hein. C'est un paramètre de la situation, évidemment. Néanmoins, en fait, c'est plus une question de comportement humain qu'une question de nombre, hein. Tous les économistes et tous les écologues s'accordent à le dire. Il serait trop simple de considérer que c'est simplement la croissance démographique humaine qui est à l'origine du problème. Le problème, c'est d'abord le comportement, d'autant plus que les démographes s'accordent à dire que, d'une manière générale, la population humaine va se stabiliser dans les années à venir, certes à un niveau relativement important, mais malgré tout, ça ne va pas être le problème majeur qui va continuer à augmenter d'intensité. Le problème majeur, en fait, c'est la manière dont nous nous comportons, et en particulier sur les 8 milliards d'êtres humains, il y en a 5 milliards dont nous faisons malheureusement partie, hein, qui ont une attitude prédatrice sur l'environnement et sur la biodiversité qui est infiniment trop importante, avec évidemment aussi en corollaire ou en corréla l'émission de gaz à effet de serre.
Juliette Landry, sur la même
question.
Oui,
je pense évidemment que c'est une question qu'il faut aborder avec précaution. Et c'est de la même façon, alors je ne veux pas trop faire de parallèle avec les questions sur le climat, mais on entend aussi la même chose quand on parle de climat, c'est attendez, est-ce que la démographie va aussi nous empêcher de d'atténuer le changement climatique parce qu'on va être de plus en plus sur Terre, etc. Et comme l'a dit Philippe Grandcola, effectivement, il y a une différence entre les impacts et l'empreinte écologique que, par exemple, nous, on a en tant que Français et l'impact écologique qu'une personne qui va habiter au Cameroun ou dans d'autres pays va avoir. Donc, il y a aussi cette approche à avoir là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer... cette question on ne peut pas aborder cette question de démographie sans aborder la question des inégalités et justement comment faire pour que l'empreinte écologique soit d'abord réduite dans les pays du Nord, comme on les appelle. Et d'un autre côté, c'est vrai que l'IPBES le dit dans ses rapports, les causes indirectes de perte de biodiversité, donc les questions de démographie, les questions sociales, les questions économiques, sont évidemment à prendre en compte. Parce que dans nos scénarios, dans nos modèles, il va falloir aussi qu'on envisage comment on va se construire collectivement. Sans forcément demander à des personnes d'aller dans des mesure complètement aberrante d'empêcher les gens d'avoir des enfants, c'est pas la question aujourd'hui. C'est plutôt comment on fait individuellement et collectivement surtout pour réduire notre empreinte écologique pour qu'elle soit et aussi dans une démarche de réduction des inégalités.
Sur la question des impacts, puis après on va en venir aux solutions et à la COP15, mais quand vous dites que, enfin sur la question des inégalités de l'impact, quand vous dites qu'un Français a beaucoup plus d'impact sur, enfin que son impact écologique est beaucoup plus fort que celui d'un Camerounais par exemple, en matière de biodiversité très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se traduit en fait?
Ça se traduit de plusieurs façons. En tant qu'individu, alors c'est vrai que la question individuelle, elle n'est pas traitée directement par la Convention sur la diversité biologique et on a une cible, on a un objectif, notamment sur la sensibilisation à la consommation durable, etc. D'un autre côté, c'est vrai que individuellement, on a envie de s'engager pour la biodiversité, mais il va nous falloir plutôt une approche un peu systémique de notre façon de consommer notre façon d'habiter, de construire nos logements, notre agriculture, qui en fait l'agriculture est véritablement l'impact majeur sur la biodiversité, le secteur qui a le plus d'impact. Et c'est peut-être là qu'il y a un petit regret par pas mal de personnes issues de la société civile, les ONG, les scientifiques qui le disent. C'est peut-être que la consommation de viande n'est pas assez bien traitée par le nouvel accord mondial. Mais par exemple, la première étape, nous, en tant que Français, ça serait de réduire sa consommation de viande. On parle souvent du bœuf pour le climat. C'est pas forcément la même chose pour la biodiversité. La biodiversité, quand on mange un bœuf élevé en pâturage, ça peut être par exemple bénéfique parfois pour la biodiversité quand c'est bien fait. En revanche, manger du poulet, ça va être peut-être plus détrimental. Donc voilà, en tant qu'individu, il y a ces questions-là à se poser, mais j'insiste vraiment sur le fait que ça s'approche collectivement parce que les Français, par exemple, en tant que Français, on va beaucoup importer de ce qu'on appelle des commodités, du soja, etc., pour nourrir nos élevages. Et c'est là qu'on a des impacts, et aussi en dehors de nos frontières. Et c'est ça qui est important quand on a ces négociations internationales-là, c'est qu'on va toucher du bout des doigts les questions aussi commerciales, on va toucher du bout des doigts les questions... ces questions qui vont réguler la gouvernance internationale, non pas que sur la biodiversité, mais sur vraiment tous nos rapports entre pays et les systèmes économiques in fine. Donc voilà, on a c'est important effectivement de se poser la question en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire moi? Évidemment, il y a plein de solutions. On peut penser à avoir un jardin en friche pour que la biodiversité puisse prospérer. On peut penser à plein d'autres petits actes. Mais c'est avant tout à la gouvernance nationale et locale de s'emparer de ce sujet-là et in fine à la gouvernance internationale de se mettre d'accord sur des échanges qui vont être des échanges commerciaux par exemple qui vont être beaucoup plus qui vont prendre en compte des standards pour la biodiversité.
Avant de marquer une pause, puis de regarder de près cet accord final de la COP15, je voudrais qu'on s'arrête à un dernier point sur le constat, Philippe Grand-Colas. Lors d'une de vos précédentes participations à une émission, j'avais été très frappée par quelque chose qui m'avait échappé jusqu'alors, qui est le fait que finalement, il y a beaucoup plus d'espèces qu'on ne connaît pas encore que d'espèces connues, et que si on fait pas attention, on va se priver de la joie de ces découvertes-là. C'est de quel ordre, en fait? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça?
Oui, effectivement. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, j'ai encore de la biodiversité en quelque sorte. Mais effectivement, on a aujourd'hui, alors quand on fait la prédiction malheureuse et avérée hein, d'un million d'espèces en voie de disparition d'ici 2050, en fait c'est un million d'espèces par rapport à ce qui existe en réalité, pas par rapport à ce que connaît la science. Donc la science connaît, a décrit de manière littérale, on va dire à peu près 2 millions 100 d'espèces, 2 100 000 espèces vivantes de toutes sortes. Et dès qu'on a des activités d'échantillonnage ou d'inventaire, de manière statistique, on se rend compte en fait qu'on ne connaît qu'environ 20% au mieux de ce qui existe réellement sur la planète. Et encore, quand on dit 20%, on ne prend pas en compte la quantité absolument phénoménale de virus ou de certains micro-organismes hein, qui sont encore beaucoup plus nombreux et beaucoup moins connus. Donc on est vraiment dans une situation un peu paradoxale quelque part. Hein. On habite une planète qu'on connaît finalement presque moins que la situation d'un certain nombre de corps astronomiques hein, que l'on voit dans notre ciel étoilé. Et puis sur cet ensemble, on en connaît qu'une partie. Et malheureusement, on est en train de détruire effectivement même une partie qu'on ne connaît pas. Et effectivement, c'est une des valeurs de la biodiversité qu'on a quelquefois appelée du nom de valeur d'option. Hein. Quelquefois, on se rend pas compte que ce que l'on détruit pourrait avoir une fonction dans le futur, parce que l'environnement change, et malheureusement, il change beaucoup aussi sous notre influence. Et puis, il pourrait avoir une valeur, tout simplement, parce qu'il y a des usages que l'on pourrait en tirer et que l'on n'a pas encore. Donc, c'est d'autant plus dramatique de détruire cette biodiversité qu'en fait, on se prive, finalement, de ressources dont on pourrait disposer pour le futur. Il y a bien sûr une valeur intrinsèque à la biodiversité. Hein. On n'a pas le droit de détruire un patrimoine dont nous ne sommes que les détenteurs provisoires, hein, même en considérant finalement que l'humanité future a le droit tout autant que nous de pouvoir en jouir dans les années à venir. Il y a une valeur de service immédiate, bien sûr, on se nourrit de biodiversité, elle régule notre climat, elle peut être source de maladies ou au contraire d'antagoniste aux maladies, etc., etc. Mais il y a aussi une valeur d'option pour le futur, et cette valeur d'option, malheureusement, elle est mise en danger par cette crise, et d'autant plus que, voilà, on le découvre avec douleur, hein, quand on est victime d'une maladie émergente comme la Covid-19, par exemple, on s'aperçoit que les coronavirus du sud-est asiatique sont pas très bien connus et on continue à en décrire actuellement hein, de tous les pays d'Asie du sud-est. Et on se rend compte en fait que les risques se concentrent sur certaines régions très peuplées hein, où le paysage est morcelé, où les hôtes des coronavirus se trouvent en promiscuité avec des humains ou avec des animaux domestiques qui peuvent servir de passerelles. Donc quelquefois, ce manque de connaissance, eh bien, nous revient en retour, hein, en ricochet, de manière très douloureuse. Donc, il y a effectivement non seulement ce devoir de protéger, mais ce devoir quelque part d'inventaire également.
On va marquer une petite pause dont Je pense donc j'agis dans un instant. On accueillera Raymond. À tout de suite. On écoute une chanson de Circonstance signée Yvan Marc sur RCF.
On oubliera les oiseaux, on oubliera. On oubliera les ruisseaux, on oubliera. On oubliera les nuages, on oubliera le sable. Les sirènes aux jambes si belles, aux sourires affables. On oubliera les fleurs, on oubliera. On oubliera la douceur des matins de printemps. On oubliera la lenteur des arbres qui s'éveillent. Les roses au parfum d'amour ne peupleront plus notre sommeil. On oubliera l'odeur de la terre nourricière. On oubliera les rires des enfants sautant dans les rivières. On oubliera les poèmes qui naissaient aux aurores. retour du soleil nous rendait plus forts.
On oubliera, c'était Yvan Marc sur RCF.
Vous écoutez une rediffusion. Merci de ne pas appeler le standard.
Avec nos deux invités, Juliette Landry, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, qu'on appelle l'IDRI, et Philippe Grand-Collat, vous êtes écologue et spécialiste de l'évolution des insectes. Raymond nous a rejoint. Bonjour Raymond.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, je disais tout à l'heure à votre la personne qui m'a reçu, on ne parle rarement, sinon jamais, ou presque jamais, de l'homodiversité. L'homodiversité en tant que comportemental et en tant que conscience. C'est-à-dire qu'on met en place des systèmes qui réduisent de plus en plus le champ de la liberté de chacun dans son travail, dans son loisir, dans toutes ses activités intellectuelles et voire annexes. J'en veux pour preuve la dernière en date qui consiste à passer par Internet pour envoyer une lettre, alors que ceux qui n'ont pas Internet se trouvent éjectés. Et toute cette pollution, parce que j'appelle ça une pollution, on n'en parle pas. Alors on se laisse manipuler comme ça, et petit à petit, or, la lutte contre la dérive climatique et autres passe par la prise de conscience globale. Et non pas forcément, bien sûr, individuelle, mais aussi globale.
Merci
voilà
beaucoup, Raymond.
Ce que je voulais dire.
Eh ben, c'était très intéressant. Merci de nous avoir appelé dans Je pense donc j'agis. Juliette Landry, je vous donne la parole. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la perte de la biodiversité. Est-ce qu'on peut parler d'une perte d'homodiversité? Est-ce qu'on peut faire le lien surtout entre les deux?
Alors, pour les aspects un peu plus biologiques, peut-être que Philippe Grand-Collat pourra mieux répondre que moi, mais ce que je trouve intéressant, c'est que si on en parle finalement sur la question des valeurs et sur la question des modes de vie qui sont différents en fonction de là d'où on vient, de si on est un Français qui habite à Paris ou si on est issu d'une communauté ou d'une population, d'un type de population autochtone qui habite en Amazonie, on n'a évidemment pas les mêmes valeurs, les mêmes modes de vie, les mêmes façons aussi, les mêmes liens avec la biodiversité, avec la nature pour certaines populations, par exemple. Les populations autochtones, le mot nature n'existe pas parce qu'ils font partie de la nature en fait. Et nous, on a peut-être une autre relation à la nature. Alors l'humain, pour moi, il est vraiment au cœur de cet accord qui a été signé à Montréal. Et je pense qu'il faut le souligner. Il faut souligner qu'on veut respecter, on veut protéger ces différentes valeurs là. Et pour autant, on veut les faire communiquer un peu entre elles et apprendre les unes des autres sans forcément les uniformiser.
En fait, il faut rappeler que l'humain est partie de la biodiversité. C'est précisément pour ça que le concept de diversité du vivant, entre autres, a été formulé, simplement pour qu'on ne se distancie pas par rapport au restant du vivant. Nous sommes une espèce de primate qui a évolué à partir d'ancêtres mammifères. Et effectivement, de ce point de vue-là, nous faisons partie de ce concept de biodiversité. Et dans ce concept, il n'y a pas seulement les aspects génétiques ou autres, il y a aussi des aspects culturels, évidemment. Et parmi ces aspects culturels, il y a ceux que vient de rappeler Juliette. Et il faut aussi rappeler à cet auditeur que en juillet de cette année, à Bonn, il y a eu une plénière de l'IPBES, justement, à laquelle je représentais le CNRS, et où un rapport a été formulé justement sur les valeurs de la nature. Le résumé pour décideurs est tout à fait disponible dans toutes les langues des Nations Unies, visible sur Internet et parfaitement lisible, je pense, pour la plupart de vos auditeurs. Et ça rappelle justement cette question des valeurs de la nature pour les différents peuples en fonction de leur culture. Il faut se rappeler que dans le monde actuellement, il y a plus d'1,5 milliard de personnes qui dépendent directement des espèces sauvages non domestiques pour une bonne partie de leur vie. Il y a plus de 3 milliards de personnes qui dépendent du bois comme source d'énergie. Donc on n'est pas dans un monde centré sur l'Occident ou encore moins sur l'Europe. On est dans un monde extraordinairement divers. Et effectivement, et l'humain fait partie de cette diversité dans toutes ses dimensions. Donc effectivement, cet auditeur a raison, il ne faut pas se focaliser sur une vision européano-centrique, hein, très loin de là. Les peuples premiers, actuellement, les peuples autochtones gèrent entre 8 à 10% du territoire au niveau mondial, et justement la COP 15 a rappelé que notamment quand on définit des aires protégées, on doit aussi se baser sur les savoirs traditionnels et sur ces territoires gérés par les peuples autochtones, et non pas les évincer des aires protégées, comme ça se produit encore malheureusement dans certains endroits dans le monde, avec le soutien de certains gouvernements et de certaines ONG dites de protection de la nature.
Alors justement, venons-en à ce qu'il y a dans ce texte, et la mesure la plus commentée, c'est celle que vous venez de décrire, donc la protection de 30% de la surface du globe terre et mer. Actuellement, ce sont 17% des terres et 8% des mers qui sont protégées. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une aire protégée, en fait? Parce qu'il y a différents degrés possibles de protection. Donc là, qu'est-ce qui est visé, en fait?
C'est vrai que si on le voit du point de vue français, on a entendu beaucoup de rodomontades, hein, la France a déjà 30% d'air protégé. Alors c'est à la fois vrai et faux, hein. Dans les 30%, il y a plein d'aires qui sont tout à fait intéressantes, comme par exemple les parcs naturels régionaux, où on met en conciliation, hein, les collectivités locales, les différents corps professionnels, et puis à l'intérieur d'un syndicat mixte, hein. Donc ça aide les gens à discuter ensemble pour aller vers un meilleur futur, respecter les aspects du paysage, de la biodiversité, de la culture. Néanmoins, ce ne sont pas des aires protégées à proprement en parler. Donc si on considère les aires protégées, la France n'est en aucun cas à 30%. Cela dit, les négociations à la COP 15 ont montré qu'il y a beaucoup de pays, notamment de pays du Sud dits en développement, hein, qui ont des problèmes divers et variés, notamment des problèmes économiques, qui ne sont pas forcément non plus toujours d'emblée favorable à ces 30%, parce que ça représente une difficulté, hein, de mettre une partie de son territoire en réserve. Si on a par exemple un trait de côte assez court, ce qui n'est pas le cas de la France, mettre en réserve une partie de sa zone économique exclusive marine, bah, c'est se priver d'un certain nombre d'activités commerciales potentielles. Créer des réserves en milieu terrestre, ça suppose des ressources, parce qu'il faut avoir une mise en place d'une législation, mais aussi avoir des personnels qui sont dédiés à la gestion de ces réserves. Donc cette question, elle a été beaucoup d'ailleurs contingente, hein, de la création d'un fonds ou de l'abondement d'un fonds qui existe déjà et qui, par les pays du Nord, pour aider les pays du Sud à mettre en réserve ces 30%. Alors il y a aussi un élément qui est important, que j'ai déjà un peu mentionné, c'est que ces réserves ne soient pas des espèces de déserts humains. Hein. Quand il y a des peuples autochtones avec des savoirs traditionnels, il faut qu'ils soient associés à la constitution de ces réserves. La plupart du temps, ce sont déjà eux qui gèrent ces territoires d'une manière bien supérieure, bien plus respectueuse de l'environnement que nos sociétés industrielles. Puis d'autre part, il y a un autre aspect, hein, c'est qu'il ne faut pas imaginer qu'on crée des espèces de sanctuaires, hein, qui correspondraient à une sorte de vision naïve de la forêt vierge ou du paradis, et puis qu'en dehors, on fasse à peu près n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'une des autres mesures phares que la COP 15 a mis en avant, c'est aussi la restauration, c'est pas la seule mesure, hein, bien entendu, mais une mesure importante, c'est aussi la restauration de 30% d'espace en dehors des aires protégées, hein. Donc on se contente pas de sanctuariser des espaces dans lesquels finalement l'air protégé c'est une solution fondée sur la nature, hein. Ça revient à dire que dans un espace on laisse les écosystèmes suivre leur cours, on espère que de ce fait là, ce qui est le cas en règle générale, la nature se porte mieux, et puis il y a des bénéfices qui débordent même de ces aires protégées. Par exemple, une aire marine protégée, c'est la reproduction d'un certain nombre d'espèces de populations de poissons localement, et puis ça abonde même les zones adjacentes dans lesquelles on peut avoir des activités de pêche. Mais donc, c'est une solution fondée sur la nature, mais elle ne peut pas être la seule solution fondée sur la nature. Il faut aussi restaurer ou respecter le restant des écosystèmes.
Julien Landry, une fois qu'on a dit ça, qu'on s'est mis d'accord sur les 30%, comment on fait pour que ce soit effectivement appliqué? Parce que cet accord, il n'est pas contraignant.
Effectivement, c'est toute la question de cet accord. C'est que maintenant qu'on l'a adopté, et les 30%, Philippe Grandcola l'a rappelé, c'est une mesure phare, mais ce n'est pas la seule, et je tiens à le souligner. Mais effectivement, par exemple, si on prend cette question des 30%, comment on fait maintenant pour que chaque pays contribue à sa manière à atteindre cet objectif de 30% global? Parce qu'il faut rappeler que c'est un objectif au niveau international, 30% de protection terrestre et 30% de protection dans les espaces marins, c'est un chiffre qu'on souhaite atteindre en 2030 au niveau international. Après, on n'a pas les mêmes circonstances, on n'a pas les mêmes écosystèmes, la même biodiversité, les mêmes biomes d'un pays à d'autres. Il y a des pays qui ont ce qu'on appelle des espaces importants pour la biodiversité, au sein desquels il va y avoir beaucoup de diversité génétique, d'espèces qui vont être importantes à sauvegarder. Et au sein de ces pays-là, par exemple, on va penser spontanément au Brésil, qui a quand même ce qu'on appelle un hotspot de biodiversité, un point chaud, je ne sais pas si on peut le traduire comme ça correctement, mais en tout cas, une biodiversité qui est méga divers, qui a une biodiversité importante, peut-être que le Brésil va devoir contribuer de façon un peu plus significative à cet objectif de 30% que en France, où on est un petit peu moins biodivers, mais au sein du, pour la France s'est décidée, le gouvernement a décidé de quand même adopter 30%, je pense que c'était une mesure phare pour eux aussi, pour souligner le travail diplomatique qu'ils avaient entrepris au sein d'une coalition qu'ils avaient lancée avec le Costa Rica pour soutenir cet objectif de 30% et pour montrer qu'on avait besoin de cet objectif global. Et donc la France a pris cette mesure-là. Et après, il va falloir voir effectivement ce qu'il en est de la gestion. Mais donc là, dans les deux prochaines années, tous les pays vont devoir soumettre leur stratégie nationale pour la biodiversité avec des objectifs nationaux. Et ces objectifs nationaux devront reprendre les 23 objectifs de l'accord de Kunming-Montréal qui a été adopté et devront dire comment ils comptent donc s'aligner avec ces 23 objectifs.
Et s'ils ne le font pas, qu'est-ce qui va leur arriver ?
Eh ben, il va pas. C'est pas une convention qui est basée sur des sanctions. C'est une convention qui est basée sur une coopération, un accompagnement, une entraide. Philippe Grandcola a parlé du fond, par exemple. Donc l'idée, ça va être aussi de souligner où sont les enjeux, notamment pour les pays en développement, pour ensuite les accompagner avec des fonds adéquats, du renforcement de capacités quand il y a besoin de capacités techniques et technologiques et autres qui ne sont pas sur place. Mais la Convention sur la diversité biologique, elle a plutôt un rapport, jusqu'ici, c'était une convention, donc ça l'est encore, c'est une convention qui est basée sur du reporting, du rapportage. Donc on a des rapports. Jusqu'ici, ils étaient vraiment... c'était pas du tout harmonisé, pas comparable. Il n'y avait pas beaucoup d'indicateurs. Là, ils ont adopté un cadre d'indicateurs qui est associé aux objectifs internationaux. Donc, on va pouvoir un peu mieux suivre. Après, ces indicateurs, certains indicateurs ne sont pas encore très bien développés. Mais en tout cas, on a une première base pour mieux suivre. Et après... Une fois qu'on aura ces rapports et on aura un bilan global, donc un bilan collectif, où est-ce qu'on en sera collectivement, donc c'est en 2026 et en 2030. Et une fois qu'on aura ça, il va falloir aussi que la société civile s'empare de ces rapports-là. Et c'est là toute la question, en fait, c'est que moi, ce que je pense qu'il manque et ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas d'examen individuel de chaque rapport pour chaque pays. Et là, ça aurait permis peut-être un peu plus d'accroche pour les ONG, pour la société civile, pour les médias, de dire en fait, là, j'ai remarqué que mon pays n'a pas fait ce qu'il fallait. Et on a ce système de rapport onusien qui nous permet de le voir. Aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui est bien meilleur que ce qu'on avait avant. Donc ça, il faut le souligner. On a un calendrier un peu plus précis. On va pouvoir faire le point de temps en temps. En revanche, c'est vrai qu'il va falloir effectivement mobiliser un peu plus les collectivités aussi locales. Il y a plein d'acteurs à mobiliser qui vont pouvoir s'appuyer sur ces rapports aux ONU.
Mais on entend dans ce que vous dites le rôle clé des ONG, donc on les invitera, on ira les interroger justement pour faire le bilan au-delà des 2 ans.
Bonjour Jean-Claude. Jean-Claude, est-ce que vous êtes avec nous ? Je crois que non. Alors peut-être que Denis est là. Est-ce que vous êtes là, Denis ? Décidément, on a du mal. Denis, est-ce que vous êtes là ? Oui, bonjour.
Et voilà, j'ai grandi à Madagascar. Et à Madagascar, donc, les pêcheurs ils se plaignent de manque de poissons par rapport aux bateaux qui ramassent industriellement les poissons au large, quoi. Alors, quelle est la question pour la population des pêcheurs dans toutes les îles ? C'est le même problème, de toute façon. Hein.
La question de la pêche à Madagascar, ça aussi c'est intéressant. Merci beaucoup Denis d'avoir été avec nous quelques instants. On vous laisse reprendre la route. Philippe Grandcola, Denis nous parlait de cette pêche à Madagascar. Il a grandi sur place. Comment réguler finalement la pêche face à tous ces gros bateaux au large de Madagascar ?
Alors d'une manière générale, il faut rappeler déjà qu'il y a une surpêche, alors qui est surtout le fait évidemment du fait des moyens engagés de la pêche industrielle. Hein. Une surpêche, il y a 33% des stocks de poissons qui sont en surpêche dans le monde. En plus, il y a la question de ce qu'on appelle tristement les prises accessoires, hein, c'est-à-dire quand on pêche avec des chaluts profonds, on ramasse beaucoup d'espèces qu'on ne souhaitait pas pêcher et qui sont de fait tuées, rejetées à la mer. Et puis, certaines méthodes de pêche, en plus, on le sait, endommagent terriblement les fonds marins. C'est un peu comme si on avait une espèce de moissonneuse-batteuse, hein, monstrueuse, qui parcourait des espaces terrestres en ravageant tout sur son passage pour ramasser voilà, quelques espèces qui nous intéressent dans la végétation. Donc on est vraiment dans des situations effectivement où il y a un défaut de réglementation sur ces questions-là. On l'a vu récemment, il y a un enjeu notamment de dialogue au sein de la communauté européenne qui n'a pas abouti à une conclusion positive, notamment sur les espaces qui se trouvent en mer du Nord ou dans la Manche. On est vraiment effectivement dans un système aujourd'hui où les pratiques durables doivent être mises en avant et encouragées. La pêche durable, ça existe. Il y a déjà des systèmes de pêche durable qui existent, y compris sur nos côtes françaises. Et malheureusement, les mises en danger par des activités industrielles, effectivement, à Madagascar ou dans plein d'autres pays. Et notamment, alors dans les pêches artisanales et durables, il y a des pêches vraiment individuelles réalisées par des peuples autochtones. Mais il y a aussi des pêches durables qui sont faites de manière artisanale, même avec des moyens mécaniques. Donc on est vraiment dans un enjeu, effectivement, là, de restauration, hein, de protection d'une part, parce que si on a des aires protégées marines, on va avoir des zones de reproduction pour des espèces pêchées qui vont déborder sur les zones adjacentes. Et puis, dans les aires adjacentes, avoir des enjeux de gestion durable et de restauration. Et là, effectivement, les 30% d'aires restaurées, normalement, ça devrait aider à mettre en place ces réglementations. Mais comme vient de le dire Juliette, le problème, en fait, c'est qu'on n'a pas de contraintes sur les gouvernements. Hein, et donc, c'est aux citoyens, éventuellement aux ONG et aux scientifiques, faut pas les oublier, hein, ouais. Parce que les scientifiques ont le devoir de mettre à disposition les connaissances et les moyens de résoudre les situations, hein, et donc il y a un conflit d'intérêts effectivement par rapport à des actions politiques, hein. En tant que scientifique, moi, bien sûr, comme tout le monde, j'ai mes opinions politiques et je m'engage dans des actions politiques, mais ça ne doit pas changer mon discours scientifique qui est basé sur la connaissance collective de la communauté. Néanmoins, il doit y avoir des enjeux de ce point de vue-là. Il faut rappeler qu'en France, la stratégie nationale sur la biodiversité, c'est une annonce de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, va être à nouveau reformulée en 2023. Et normalement, elle devra suivre un certain nombre de points qui ont été négociés au sein de la COP15, évidemment, avec la participation importante de la communauté européenne et de la France. Et il faut rappeler à cette occasion qu'il faudra être critique par rapport à ces 30% qui, en France, je le rappelle, ne sont pas encore réalisés, contrairement à ce qui est affirmé. Voilà. Donc il y a vraiment là un enjeu de défense dans chaque pays à propos de ces sujets.
Alors notre auditeur Jean-Claude, finalement, on l'a perdu, mais je vais quand même vous lire son message parce qu'il était très intéressant. Jean-Claude qui nous dit « Votre sujet ne dispose pas à une bonne année, ça nous met le moral à zéro. On a toujours eu des changements de climat. En tant que fils de paysan, moi j'ai toujours préservé la nature. » On en a quelques-uns comme ça, des messages, hein, souvent quand on parle du dérèglement climatique, de la perte de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on peut dire, Juliette Landry, à Jean-Claude et à tous ces Jean-Claude aussi qui sont nombreux en France et qui pensent la même chose, qui sont peut-être un peu démoralisés quand on entend certaines informations liées à l'écologie.
Mais je peux parler pour le sujet que l'on traite aujourd'hui, qui est la biodiversité. Effectivement, il va falloir aussi accepter ce constat qui est un peu démoralisant, qui est que nous sommes en train de faire face à une crise de la biodiversité. Il faut aussi savoir que quand on perd une espèce, on la perd pour toujours. Et ça, c'est véritablement triste. En revanche, et Philippe Grandcola l'a rappelé, les solutions, elles sont vraiment à portée de main. Et l'IPBES continue de travailler là-dessus. Il y a énormément de scientifiques qui proposent des choses. Les solutions sont vraiment là. Même en tant qu'individu, on peut peut-être commencer déjà par réfléchir à des solutions qui permettraient peut-être d'être moins démoralisé en se mettant en action. Peut-être en étant un peu plus émerveillé par la nature qui est autour de nous, tout simplement. Et après, c'est un point de vue très personnel. Mais c'est vrai que se reconnecter à la nature, surtout par exemple si on est citadin, c'est important. L'accord mondial, il met en avant le fait qu'on doit tous avoir accès à des espaces verts, à des espaces bleus. En tout cas, c'est important de se reconnecter à cette nature-là. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour... pour démoraliser les gens, on n'est pas là pour les déprimer, mais plutôt pour leur dire que les solutions, elles sont là, et qu'après, maintenant, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu de volonté politique, et c'est un enjeu d'arbitrage. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il va nous falloir plus de cohérence dans nos politiques, et c'est peut-être là qui est pour moi, c'est là le plus démoralisant, en fait. C'est de savoir que les solutions sont là, et que les arbitrages sont pas toujours en faveur de la protection de la biodiversité et en faveur d'une approche plutôt long terme, qui est de se dire, en fait, si on veut protéger aussi nos générations futures, les enfants, les petits-enfants, etc., et leur permettre d'avoir accès à cet émerveillement vis-à-vis de la nature, mais tout simplement aussi de se nourrir correctement, parce que c'est pas assuré qu'on ait accès à une alimentation correcte dans 50 ans si on continue à ce rythme-là. Et c'est tout simplement cette question-là qu'il faut se poser, et c'est peut-être là aussi qu'on va trouver la motivation d'aller de l'avant.
Sur la même question, Philippe Grandcola.
Mais en fait, on est dans un système, je dirais, socio-culturel un peu pervers. Hein. C'est-à-dire que la majorité de messages que l'on entend collectivement, à travers la sphère politique, les médias, etc., sont des messages qui ne concernent pas l'environnement. Il faut être clair, si vous regardez un journal de 20 heures sur une grande chaîne de télévision, si vous écoutez la plupart des radios, hein, je ne mets pas en cause les médias comme fauteurs de troubles, mais je dis on est dans un système social auquel on collabore tous, dans lequel on entend plus parler de l'activité économique, des problèmes politiques, des problèmes de santé, etc., bon, qui sont souvent aussi des problèmes biologiques, il faut le dire. Mais on parle relativement peu d'environnement, et quand on en parle, évidemment, on doit commencer par faire un constat, et ce constat est épouvantable. Donc évidemment, la réaction serait souvent, c'est qu'on dit stop, on a déjà notre quota de mauvaises nouvelles, on ne veut pas ajouter à ce quota de mauvaises nouvelles celles concernant l'environnement. Et ce faisant, on n'a même pas le temps d'arriver aux solutions, vous voyez. Donc c'est vraiment un vrai problème, effectivement, de dialogue au sein de la société, mais c'est pas le fait ni des journalistes, ni des scientifiques, c'est le fait en fait d'une société qui n'est pas assez tourné vers l'environnement et qui parle beaucoup plus d'autres problèmes, qui en plus sont souvent des problèmes qui sont finalement contingents des problèmes d'environnement, hein, parce que les solutions fondées sur la nature, encore une fois, elles appellent effectivement à plus de bonheur, à plus d'harmonie. Hein. Qui n'a pas goûté le fait d'être à l'ombre d'un grand arbre en été, de voir un beau paysage, de manger des fruits et légumes sains en circuit court, etc. Enfin, ce sont des choses qui font partie des grands plaisirs de la vie, hein, qui sont sains, qui sont équilibrants, et ce sont des solutions, et ces solutions évidemment amènent à des ressources économiques considérables. Si on subventionnait correctement dans ce pays, ce qui n'est plus le cas, une agriculture bio, par exemple, on irait vers un partage et un équilibre des ressources bien supérieurs, en permettant à des personnes de faibles revenus de se nourrir correctement. On créerait des filières, on créerait de l'emploi, et ce faisant, quelque part, en parlant d'abord des questions d'environnement, on va résoudre d'autres questions, hein, dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée, de manière négative. Donc, je pense qu'il y a vraiment une repolarisation de nos sociétés autour des valeurs de la nature, d'ailleurs, auprès desquels l'IBES a appelé, hein, pour permettre justement à ne plus se focaliser sur les points négatifs et enfin passer aux solutions qui sont effectivement à portée de main.
Bon, ça méritera une prochaine émission. Puis bon, vous allez continuer, Melchior, ouais, avec des associations. Mais un grand merci en tout cas à tous les deux d'être venus. On souligne peut-être pas assez le temps dédié par des scientifiques comme vous pour venir nous aider à entrer dans ces questions et à le faire aussi sans perdre la joie qu'on aime bien cultiver sur RCF. Donc merci pour ça. Et puis merci d'être venus ce matin.
Merci à vous.
Merci Philippe Grandcola. On rappelle que vous êtes écologue et spécialiste de l'évolution des insectes. Vous faites beaucoup d'autres choses qu'on mettra sur rcf.fr. Merci Juliette Landry également à vous, chercheuse à l'IDRI, c'est l'Institut du développement durable et des relations internationales. Merci beaucoup Anne-Claire Léo.
Merci Melchior.
Et dans un instant, on va continuer. Après avoir beaucoup réfléchi, après avoir pensé, bah on va agir, hein, je pense. Donc j'agis et on va justement s'intéresser à une association qui agit pour préserver cette biodiversité au quotidien. À tout de suite.